Shalom uvracha b'shem Hashem naase v'natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi Zayin du mois de Shvat, le 20 du mois de janvier. Un shiur sur la paracha de la semaine, paracha de Bo, qui s'intitule Dans la vie tout se paye. Et on verra pourquoi on parle de ce titre-là dans la paracha. Shiur acheté par Gevret Ayekara Hana Ayash pour la askara de sa belle-sœur Viviane. Bat Elana, Zichrona, Yuracha, Roa Hashem, Tenahena, Began Eden, Elion, Vechol, Shorvot, Imah, Bichlal, Arhami, Vasilichot, Vechen, Yeratson, et nous ramène, puisqu'aujourd'hui c'est ça, Askara. On demandera en même temps, pour l'élévation de l'âme de Kolmete Israël, au Bichlalam Hashem Atov, Adagul, Vachashu, Vaish, Ayakar, Jo Eliyahu Ben Simcha, Alice, de Mishpahat Amar, Bezrat Hashem, Roh Hashem Tanachinu, Began Eden, Elion, Gerard Grulik, Yehuda Sine Ben Eliyahu, Tzipora Bat Deligman, Deni Simcha Bat Lola, Ufren Hashem Atov, Michel, Simcha Bat Esther, Miriam Bat Simcha, Yuget Shira Chaya Bat Yvon, Saouda, Yosef Ben Rachel, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, une grande Achlama Meira Bezrat Hashem, Kol Chole, Kol Chol Israël, Mamash très urgent aussi pour Janine. Jimol Bat Simcha, René Machlouf Ben Sarah, le Mishpachat Ben Moussa, Chai Inon Ben Jessica Floret Aviva, Fouach Lemal Moratimia Gdosha Vataora, Sarah Tala Bat Efrat Myriam, Kol Chole Israël, une grande Hatzlacha pour vous tous, Bezrat Hashem. Alors, je voudrais soulever un point important avec l'aide d'Hashem, des écrits donc de nos Chachamim, c'est aussi, on le dit, à l'askarat de Eliane Chaviva Bat Alice Biba. Bezrat Hashem pour ces 11 mois, Roh Hashem Tenahena Began Eden Elyon, et qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles, qu'on fasse des Hakdashot de Shiurim pour les bar mitzvot, pour les mariages, ce serait bien aussi, Brit Milot, qu'on entende de choses, Bezrat Hashem Aval, c'est un mérite pour nous, et c'est bon pour eux. Donc, Akol le Tova Vilivracha, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. On ne peut pas faire une grande Seuda Todaya quelque part s'il n'y a pas eu quelque chose avant, hein, mais le mieux c'est de faire une Seuda Todaya avant qu'il y ait de mauvaises choses. Alors, nous sommes dans la paracha de Bo qui clôture les 10 plaies d'Égypte. Très bien, les 10 plaies d'Égypte. Mais il y a quand même quelque chose de gênant, c'est que si on devait déposer un petit peu le cerveau sur la table, en d'autres termes, vider notre sac, on a envie de dire à Dieu, pourquoi tout ce balagan? Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi cette histoire de l'Égypte et ok, alors le peuple d'Israël devait être né en Égypte pour des raisons... tout ce que tu veux, récupérer les Nitzotzot, comme dit le Harizal, parce que là-bas, c'était le pays de la reine des démons et l'idéalité, qui a fait faute à Adam Harishon de Zera Levatala, et tout se paye, donc on est parti récupérer. C'est vrai. Et puis pourquoi nous? Pourquoi les enfants qui sont nés en Égypte ont-ils été emmurés? Comment Dieu t'a pu laisser faire de tels actes, de telles choses? On a envie de dire à Dieu, pourquoi tout ce balagan? Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi toutes ces situations? Il n'y a pas moyen dans le ciel d'organiser des trucs plus sympathiques, plus de fêtes. La fête de Pessah commémore la joie des Juifs quand ils étaient en Égypte. En plus, le miracle que Dieu nous a fait pour en faire sortir sur un tapis volant. Allez, plus sympathique des scénarios qui pourraient nous accompagner avec beaucoup plus de joie, de lumière, de souvenirs positifs, là, on mange le maror à Pessah pour se rappeler qu'on mangeait du maror et le pois et des trucs de fou. L'âme, on a envie de dire à Dieu, pourquoi ton monde ne peut pas se dérouler sans des scénarios toujours catastrophiques? Car comme le dit le Ramchal, après une bonne nouvelle, il y a toujours une mauvaise nouvelle. Et après une mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle. On ne peut pas avoir le bonne nouvelle. C'est vraiment plus simple. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le principe fondamental de la création du monde, dans la vie, tout se paye. Tout se paye. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau sans te mouiller. Selon le principe fondamental, quand Dieu a créé la nature, il a créé un système. Tu ne peux pas sauter d'une hauteur et atterrir à 20 cm du sol parce que la pesanteur n'existe pas. Elle ne te le permet pas. Donc, l'attraction t'emmènera à arriver jusqu'au fond. Il y a un système où 2 et 2, ça fait 4. Dans le système de la création que Dieu a créé, il y a un principe sur lequel on doit tous faire très attention. Dans la vie, tout se paye. En français, on dit, on ne récolte que ce que l'on a semer. Ça rejoint un petit peu le même principe que Dieu nous apprend que dans le Talmud de Maseret Shabbat, c'est comme chez Tarach, mais Erev Shabbat, Yochal Be Shabbat. T'as cuisiné pour Shabbat, t'as cuisiné, donc tu mangeras à Shabbat. T'as fait des mitzvot dans ce monde, donc tu mérites le monde futur. T'as pas fait de mitzvot dans ce monde, tu as ignoré la Torah et les mitzvot, donc bah, tu n'auras récolté que ce que tu as semé. Un petit monde futur, un peu obscur, chacun va les bêtes au lameau. C'est-à-dire que nous allons dans la maison qu'on a nous-mêmes créée. Tu investis dans ce monde, dans ce que Dieu te demande de plus intelligent, car tout est éphémère et on ne prend rien avec soi. Torah, mitzvot, ma'asim tovim, très bonne relation entre les hommes, beaucoup d'humilité, comme j'expliquais tout à l'heure avec mon fils avec qui je m'entretenais, combien la mida de l'humilité est importante, de la sincérité, de l'honnêteté, combien tout est important. Parce que, vous savez, comme on dit, le voleur volé, tu voles, tu te fais voler, t'es au droit, que le brouhou, il t'envoie. Mamash amida keneged mida. Et nos sages nous expliquent que le créateur du monde, il a deux principes sur lesquels ou l'omit pacher alehem, c'est-à-dire il ne trouve pas d'accord entre l'humain et lui. Le premier, c'est qu'on emmène l'homme là où il veut aller. Et le deuxième, c'est que tout se paye dans la vie. Donc faites attention, parce que quand une personne décide d'être mauvais avec les autres, quand vous faites du mal à une personne, quand vous décidez de devenir un monstre, d'insulter, de cracher sur les autres, de ne pas avoir d'empathie, de ne pas tenir compte de l'existence de l'autre, et ainsi de suite, eh bien, sache que tu récupéreras exactement la même chose dans ta vie. Tu as laissé les gens seuls alors que tu aurais pu les réconforter, tu finiras seul, sans réconfort. Comme ça est le miroir de notre existence. Comme le dit l'Elazaken dans Maseret Avot, alors qu'il se promenait avec ses élèves et qu'il voyait un crâne qui gissait dans l'eau, il a dit à ses élèves, c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. En d'autres termes, tout se paye dans la vie, tout se paye. Alors nous, qu'est-ce qu'on est venu payer? Parce que si le peuple d'Israël, chers amis, est né en Égypte, comment voulez-vous que l'on paye quelque chose qu'on n'a pas fait? Nos chachamim nous disent, parce qu'en réalité, il faut que tu comprennes qui sont ceux qui sont nés en Égypte. La deuxième chose, qui est encore plus difficile à accepter, c'est que le système de paiement que nous avons eu en Égypte demande vraiment réflexion. Parce que si le principe, c'est que tout se paye dans la vie, ok, je veux bien, mais alors qu'est-ce qu'on est venu payer? En quoi le fait d'avoir construit pendant 210 ans, et encore même ça, ça se discute, c'est réellement, on a eu 80 ans, mamache d'esclavage dans l'absolu. Mais on va garder les 210 ans de tradition juive. En quoi le fait de construire deux villes qui s'appellent Pithom et Ramsès, et qui s'effondraient, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi est-ce que des millions d'esclaves ont construit que deux villes et ça aurait mis 210 ans? C'est débile. En trois mois, on aurait fini le travail. On était des millions. On travaillait le jour et la nuit, selon nos sages. Donc, et puis, ce n'était pas des buildings comme on a aujourd'hui. Donc, c'était incompréhensible qu'en 210 ans, on ait fait ça. Chazal nous dit tout simplement, parce qu'il y avait un effet surnaturel, que tous les Shabbats, ouais, les deux villes qui étaient totalement construites, ça veut dire que si je comprends bien le système, en une semaine, les millions d'Hébreux, soit presque 20 millions d'Hébreux qu'il y avait en Égypte, selon certains calculs de nos Chachamim, 17 millions, 25 millions, 1 milliard, on s'en fiche. Le chiffre était très important. Les hommes et les femmes travaillaient. Donc ce n'est pas que les hommes qui partaient au travail comme à l'époque, les hommes et les femmes et les enfants étaient mis en esclavage. Donc quand on parle de la totalité, c'est des millions de personnes pour construire deux villes. Nos sages nous disent, non, en réalité, en une semaine, ils avaient construit les deux villes. Alors comment se fait-il qu'ils ont duré 210 ans? Parce que tous les Shabbats, les deux villes rentraient dans la terre et s'effondraient. D'où le nom de Pithom. En réalité, il faut dire la ville de Pithom, mais Pithom. Théom veut dire abîme. Pi veut dire la bouche. On construisait les deux villes en Égypte comme si on était sur une entrée d'abîme, d'une profondeur sans fin, sans fond, plus exactement, les abîmes. Okay, quand on... Comme c'est marqué, Veruach Elokim et Rachetan Pilamim, comment c'est marqué, Bereshit Bar Elokim et Hashem et Ares, Varesa et Taat, Tohu Vavu, et Rochech al Pene Théom. Théom, c'est quand il n'y a plus de fond pour arriver en bas. Donc ils avaient construit cette ville-là dans ce système. Donc on comprend qu'en réalité, en une semaine, tous les Hébreux réunis étaient capables de construire la ville de Pithom et de Ramsès, ça on comprend. Et puis, de l'autre côté, pour expliquer comment se fait-il que le dimanche, il fallait intervenir, reconstruire cette ville-là, eh bien, c'est tout simplement parce que les villes s'effondraient, car la terre, tremblement de terre, j'y étais pas, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, les villes totalement redevenaient poussière, cailloux, et ainsi de suite. D'ailleurs, Pharaon a posé la question à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, à l'époque où il ne savait pas qu'il était le libérateur, « Pourrais-tu m'expliquer pourquoi un tel phénomène ?» Et il lui a dit, « Oui, je connais le secret des Hébreux. » Ça s'est passé juste avant que Moshe ne se dévoile. Et il lui a dit, « Sache que les Hébreux ne réussissent et n'ont une bénédiction que quand ils ont un jour de repos que leur Dieu leur a donné, qui s'appelle le Shabbat. » Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit tous les Shabbats « Ismah Moshe Behalko ». Moshe peut être content de son sort, car celui qui a instauré le Shabbat dans le monde, au sein du peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on le rappelle « Ismah Moshe Baruch Hashem ». Et il a dit à Pharaon « Essaye et tu verras ». Et qu'est-ce qu'a fait Pharaon ? Il a ordonné aux Hébreux de ne pas travailler le Shabbat. Et c'est à ce moment-là que les villes de Pithom et Ramsès ne se sont plus du tout effondrées. Comme ça explique nos sages. Top, essaye d'ergamour. Mais on n'a pas répondu, oui, si, mesure pour mesure, tout se paye dans la vie. En quoi, en tant qu'Hébreux, quand on venait de naître en tant qu'enfant, on était emmurés dans des trous parce qu'il fallait les compléter, on mettait dessus du plâtre et le fait de construire des maisons, qu'est-ce qu'on a détruit ou qu'est-ce qu'on aurait fait si tout est mesure pour mesure? Alors écoutez bien. Chazal, Rabotenu Alem HaShalom, nous explique une chose fondamentale dans le judaïsme, qui a été reprise essentiellement par une religion connue du bouddhisme, comme les hindous, que tout est une question de réincarnation. Tout est une question de réincarnation. Comme le dit le Harizal, il y a déjà 500 ans, il n'y a plus d'âme neuve dans le monde. Il n'y a plus d'âme neuve dans le monde. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, si nous existons, c'est parce que nous avons existé, que nous sommes venus réparer ce que nous avons commis comme acte défectueux ou compléter ce qui n'a pas été fait dans la Kedusha, dans les bonnes actions. C'est pour cela qu'il n'y a pas de hasard pour le nom que tu portes, le lieu où tu vis, la famille qui t'a fait grandir, les gens que tu rencontres. Tout ça fait partie d'un système dit théâtral pour te remettre dans des situations dans lesquelles tu devras te confronter pour réparer ce que tu as voulu. Ça, c'est mesure pour mesure. Mais on a dit que l'homme était emmené là où il voulait aller. Ça veut dire quoi? Que l'homme est emmené là où il voulait aller. C'est-à-dire que quand tu as du mauvaise intention vis-à-vis d'Hachem, eh bien, si par exemple, Elef Elfav Dalim, une femme rêvait Chas Vechalila de se prostituer et qu'elle a commis des actes irrespectueux dans ce domaine, si, entre guillemets, elle se réincarne, elle va naître prostituée. Et de ce chemin-là, elle devra revenir dans sa teshuva vers Hachem. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu voulais être. Tu vas me dire, c'est injuste. Réponse non. Pourquoi? Parce que si toi, tu veux être sadique, tu veux devenir kadosh, et tu fais un seul pas, Dieu l'en fera. Sans pour toi. C'est-à-dire que Dieu veut t'emmener là où tu veux aller, pour le meilleur comme pour le pire. Donc, c'est équilibré. Ça dépend de ton petit libre arbitre. Alors, qui auraient donc été les Hébreux en Égypte pour avoir subi tellement de souffrances, de désarroi, au point que Dieu a marre, il a dit... La sueur de leurs mains, leur souffrance intérieure est montée jusqu'au trône divin. Et en quoi le fait de construire des villes sur des sables mouvants aurait réparé quelque chose de précédent? Pour comprendre ça, il faut rentrer dans la réincarnation. Et la réincarnation nous apprend qu'en réalité, il y a eu un homme que l'on rencontrera dans la deuxième paracha du livre de Bereshit qui s'appelait Nimrod, chez Marad Bashem. Descendant direct de Ham, donc fils de Noé, à l'époque de Noah. Et qu'est-ce qu'avait fait Nimrod? Il s'était installé à Shinar, en Mésopotamie, il a créé la ville de la Babylonie, connue aujourd'hui comme ce nom-là, et il avait insisté à réunir toutes les nations du monde sous un seul unique drapeau dont il serait le roi unique, le roi dictateur, en lançant une idée qui a plu à tout le monde. Celle de créer une très très grande tour. Pourquoi deux idéologies, avait dit Nimrod. La première, si Dieu, on ne le trouve pas sur terre, peut-être qu'il est là-haut, au-dessus du ciel. Un peu abracadabran. Deuxième chose, pourquoi il a réussi à persuader tout le monde, hormis le fait que c'était un très très grand démagogue, comme tous les grands gourous, c'est tout simplement qu'il a dit, la force de Dieu est dans l'eau. Il a créé le déluge, et ils sont tous morts. Mais si on crée une tour qui monte si haut, que même le déluge de Dieu ne pourrait pas atteindre, ce qui fait qu'on pourrait faire tout ce que l'on veut en bas, et ne pas donner la possibilité à Dieu de nous punir. Puisque pour Nimrod, n'ayant pas connu les catastrophes des volcans, des tremblements de terre et tout ça, il était simple de comprendre que la force de Dieu était que quand Dieu se fâche et qu'il veut nous faire payer les choses, eh bien, il envoie le déluge. Donc, l'idée de créer une tour qui fasse des dizaines de kilomètres, selon certains de nos commentateurs, voulait dire que nous allons créer une tour qui est si haute, nous allons fabriquer des briques, nous allons fabriquer des lévénies, nous allons fabriquer tout ce qu'il faut, si haut, que si demain Dieu veut nous menacer parce qu'on a envie d'être, de se lâcher l'âme animale que nous avons, de prendre une femme mariée, un mec avec un mec, une femme avec une femme, faire ce qu'on veut, allez, sans moralité, je parle bien entendu pour celui qui croit en la Torah et les mitzvot, si tu ne crois pas, ça ne te concerne pas comme chiour. Mais de telle façon à dire à Dieu, de toute façon, aujourd'hui, on s'est créé un système que même si tu veux amener le déluge, tu ne peux pas nous avoir. On a créé une tour qui est énorme, énorme, énorme. Toujours au fou, il se rit de cela. La Gemara, dans Maseret Sanhedrin 109 à Amoud Aleph, nous dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Par rapport aux 3 degrés d'idéologie de ces peuples qui s'étaient réunis pour construire cette tour, il y en a qui ont été transformés en démons, en Lilin, Rouchot, comme ça nous dit la Gemara, certains ont été transformé en singe, pas qu'en singe, en éléphant, toutes sortes de choses. Mais en tout cas, là-bas, c'est marqué par terme les kofim, donc le mot singe est utilisé. C'est pour ça qu'on retrouve encore des ossements aujourd'hui d'hommes préhistoriques dits singes, parce qu'il vient de cette époque. Et puis, Gemara, Sanhedrin, 109, Amoud Aleph, première grande ligne. Hein, là-bas. Et donc, et puis les troisièmes, Dieu les a dispersés. D'accord ? Et les Mishpechot Adama, c'est-à-dire les familles des peuples, car avant, chaque peuple était une famille qui avait un père, arbre généalogique, arrivait à un peuple, à partir de la tour de Babel, Bilbel Lahem et Lashon, c'est-à-dire il a mélangé les langues, il a pris un portugais et avec une américaine, ça a créé un nouveau peuple, populisme, on l'appelle, cosmopolite. Il a créé le cosmopolitisme, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'était l'idée de Dieu. Maintenant, ces gens-là, quand ils sont morts, on ne voit pas qu'ils ont fait tchouva. À part un, on ne voit pas qu'ils ont fait tchouva. Achour, lui, il a fait tchouva. Il a créé la ville de Ninive, et Rachid dit, il a créé une ville, Erachamaim. Il a eu peur de Dieu. Donc c'est pour ça que tous les habitants de Ninive à l'époque de Yonah, pour ceux qui comprennent de quoi je parle dans l'étude, ont fait très vite tchouva. Parce que comme la ville avait été créée dans sa racine, dans sa terre, la première fondation qui a été créée dans la première maison de Ninive par Achour, a été créée pour qu'ici on craigne Dieu. Donc tous les habitants de Ninive, ils se félicitaient simplement de leur dire, « Eh, il faut faire tchouva, puisque... » Cette ville avait été créée, sauf Maase Mahshavat Echila, sauf Maase, la fin de l'action vient montrer la première intention. L'intention était de créer une ville en l'honneur de craindre Dieu. Quand on le disait aux habitants de Ninive, il faut faire tchouva, il faut craindre Dieu, eh bien la ville, la terre influençait sur eux et ils faisaient tchouva jusqu'aux animaux. D'où le livre de Neyala qui demande beaucoup d'explications de comment se fait-il que tout le monde a fait tchik-tchak tchouva. Tov, en ce qui concerne maintenant tous ces gens qui sont morts, on ne voit pas dans le texte de la Torah que quand Dieu les a éparpillés et les a ramenés sur leur territoire, chacun son niveau, les démons sont partis mi-démons, ceux qui étaient singes sont retrouvés dans la forêt et la jungle, et puis ceux qui sont retournés chez eux, ils sont retournés chez eux. Mais quand ils sont morts, si tu ne fais pas de tchouva, tu ne regrettes pas une action, bah tu restes encore fâché. C'est comme quelqu'un qui te fait du mal, il a arrêté de te faire du mal, mais il ne t'a pas demandé pardon. Donc automatiquement, si tu n'as pas demandé pardon, eh bien, c'est qu'il y a encore quelque chose de fâché. Et étant donné que les habitants, à l'époque de Nimrod, sont rentrés chez eux, mais ont toujours gardé cette idéologie de cette tour de Babel, de construction de cette tour immense, okay, au point où leur idéologie était tellement fermée à cause de ce gourou qui était Nimrod, que quand une pierre tombait, ils portaient le deuil. Mais quand un enfant ou un homme tombait, parce que tout le monde travaillait, les hommes, les femmes et les enfants dans cette tour. Écoutez bien, ils tombaient, ils regardaient comme ça, et ils n'en avaient rien à faire. Il n'y avait plus aucune empathie. Pourquoi? Parce que quand une pierre, elle tombait, il disait « Oh, combien de temps jusqu'à ce qu'on monte tout en haut des escaliers ?» Il fallait presque un an pour monter une brique en haut de la tour. Vous imaginez combien cette tour était haute? Vous imaginez? Donc, pour une brique, ils pleuraient tous. Pour une vie, ils étaient presque contents que ce n'était pas une brique qui était tombée. Quand ils sont arrivés devant le Beddin d'en haut, à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit « Ok, la tour n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux endroits dans l'histoire juive, deux endroits qu'on connaît bien, où la terre faisait constamment tomber, quand tous les Shabbats, c'était la tour de Babel et c'était les villes de Pithom et Ramsès. Tout se paye dans la vie. Quand Nimrod a réuni toutes les nations du monde à construire la tour de Babel, tout le monde, tellement de millions de personnes, mais il est évident qu'il ne fallait pas trop longtemps pour construire une tour, combien haute soit-elle. Quand on est des millions, c'est comme des fourmis. Ben là, il passe à l'autre. Donc, combien ça va prendre de temps? Un an? Deux ans? Maz et méchané. Ça va vite. Pourquoi n'y arrivait pas? Eh bien, parce que la tour de Babel, tous les Shabbats, s'enfonçait dans la terre. Ce qui fait que tout ce qu'il rajoutait s'enfonçait dans la terre, s'enfonçait, et l'histoire se répète. Pourquoi est-ce que Nimrod, d'après vous, il a construit la tour de Babel, on a dit à cause du déluge. Quelle est la première plaie d'Égypte? L'eau qui devient du sang. Quelle est la dernière plaie d'Égypte? La mort des Égyptiens envahis sous les eaux. Akadosh Baruch Hu répond à Nimrod, qui bien entendu, vous l'avez compris, Nimrod n'était la réincarnation de Caïn. Caïn, la réincarnation du serpent. Donc si Nimrod s'est réincarné, vous savez en qui il s'est réincarné en Égypte? En Brim Chazal. Pourquoi on se dit que Pharaon, c'est Caïn? C'est vrai, mais c'est Caïn dans le corps de Nimrod. Et Nimrod s'est réincarné en Pharaon. Et c'est pour ça qu'elle était la métropole du monde. Tout comme Nimrod réunit toutes les nations venaient se nourrir en Égypte. Nimrod, c'est Pharaon. Et Pharaon était un très grand démagogue, un très grand prestidigitateur, un homme qui savait Barchizat Aïnaïm, un homme qui était orgueilleux, un homme qui se prenait pour Dieu. Nimrod, vous vous rappelez l'histoire, regardez dans la deuxième paracha du livre de Bereshit, vous retrouverez exactement les mêmes caractéristiques, la même violence verbale, la même cruauté chez Pharaon. Et c'est pour ça que Pharaon, sur l'ordre divin, d'une certaine façon, a pris les enfants d'Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu a réincarné toute la génération de la tour de Babel au sein même du peuple d'Israël. Et pourquoi? Parce que ce qui manquait à l'époque de la tour de Babel, c'était la moralité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Nimrod et Dieu, il n'y a pas de Pharaon et Dieu, il n'y a pas de père et fils. Il n'y a que Dieu, c'est tout. Il n'y a que Dieu, c'est tout. Il n'y a pas le fils et Dieu. Haine d'avoir casé, c'est une invention d'un démagogue. Il n'y a que Dieu, et Dieu a plein d'enfants. Chaque créature est un enfant de Dieu, comme bien l'aîné, le cadet, le benjamin, c'est tout. Voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'a fait lui maintenant? Donc Nimrod réincarné, il reprend son idéologie. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse au Shabbat. Il dit, mais comment se fait-il que... Parce que dans le Gilgul précédent, il ne comprenait pas. Comment se fait-il qu'on construit une tour qui ne cesse de s'enfoncer dans la terre? Il n'a pas demandé à Abraham Avinu. Abraham lui aurait dit, il fallait faire Shabbat. Ce soût a été gardé pour la deuxième réincarnation. Et comme l'homme est emmené là où il veut aller, et que toute la génération de la tour de Babel a été réincarnée à l'époque de l'esclavage égyptien, la mégama, la tendance, était de « Vous voulez des briques? Vous voulez construire? C'est ça que vous vouliez faire? Vous allez le faire. Je t'emmène là où tu veux aller, et tout se paye dans la vie. Alors, qu'est-ce que tu fais des enfants qu'on emmurait? Comment Dieu, tu laisses des bébés emmurés dans les maisons, mais t'es où en Égypte? » Il dit, moi je suis nulle part. Je leur fais faire, je les laisse faire ce qu'ils ont fait au préalable. Qui a emmuré des enfants avant? De leur propre initiative pour lutter contre moi, dit Dieu. N'est-ce pas vous à la tour de Babel? Car quand il manquait une brique pour compléter la tour, vous preniez vos propres enfants et vous les avez vous-même emmurés. Alors Akadosh Baruch Hu t'a dit, n'oublie pas mes deux principes. Je t'emmène là où tu veux aller, et dans la vie, tout se paye. Ce que nous avons subi en Égypte, ce que nous avons traversé en Égypte, n'était rien d'autre que le fait d'aller payer ce que nous avions provoqué dans la réincarnation précédente. Et la reine Boré Olam n'est restée que spectateur, jusqu'au jour où on a fait Teshuvah, jusqu'au jour où même les Égyptiens ont dit « Etzba Elokim. Et sauf, sauf, à la troisième plaie, ils disent, la plaie des Kenim, la plaie des poux, ils disent, c'est le doigt de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, les choses commencent enfin à se calmer. Borolam, il dit, ah, vous avez compris que Pharaon n'était pas Dieu. Vous avez compris que Nimrod n'était pas Dieu. Vous avez pris une leçon dans la vie. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est moi, dit Hachem. Et je vous ai emmené là où vous vouliez aller. Chaque pierre qui a été construite à la ville de la province de Goshen, de Pitom et Ramsès n'était qu'autre que le même travail qui fut fait dans la tour de Babel à une échelle moins haute, certes, mais beaucoup plus élargie sur deux villes qui, elles-mêmes, puisque vous avez voulu fabriquer des briques, vous en fabriquerez. Vous avez voulu lutter contre moi, vous travaillerez pour rien, jusqu'à ce que je vienne vous montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui, à travers 10 prodiges, vous ramènera à la raison. Et qu'est-ce qu'on découvre à la fin de tout cela? Quelque chose d'encore plus extraordinaire. Combien notre étude est profonde, combien notre Torah est belle, Baruch HaShem. Ce que l'on découvre, c'est que, très bizarrement, les Égyptiens reconnaissent à la troisième plaie qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais au sein du peuple hébreu à cette époque, très mélangé, assimilé à un certain degré à la culture des païens de cette époque, combien vont sortir d'Égypte? 20%. Combien vont mourir en Égypte? 80%. Et là, on a envie de dire, je ne comprends pas. Les Égyptiens, ils ont reconnu Dieu. Et nous, on n'a pas reconnu Dieu. Effectivement, il faut se rappeler que les seuls 20% qui sortirent du pays d'Égypte, c'est uniquement face à la mer Rouge qu'ils ont commencé à chanter « Veyam minu b'Hashem uv Moshe Avdo ». Mais il y en a qui n'ont même pas dit ça. Ils crurent en Dieu et en Moshe, son prophète, son serviteur. Mais les 80% là-bas qui sont restés dans l'obscurité, pourquoi ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas vu les miracles, ils n'ont pas vu la mer Rouge, ils n'ont pas vu Slicha, la plaie du sang, les grenouilles, les poules, les harovs, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas vu toutes les plaies, à un tel point que même Pharaon a dit « Mais l'Égypte est perdue. Vous voyez bien que vous n'êtes plus en esclavage. Vous voyez bien que la plaie des sauterelles, c'est les frontières qu'elles vont faire. Vous voyez bien la plaie du rocher. Vous avez vu tout ça. Vous avez été des témoins oculaires. Pourquoi vous n'avez pas fait tchouva ?» Il dit « Parce qu'en réalité... les 20% qui sont restés, c'était eux l'incarnation des pires de la tour de Babel. C'était eux qui voulaient lutter de toute leur âme contre Dieu. Et étant donné qu'ils ont voulu lutter en réalité de toute leur âme contre Dieu, Dieu, malgré toute la lumière qu'il leur a apportée, ils sont restés dans l'obscurité de la tour de Babel. Pourquoi l'obscurité de la tour de Babel? Parce que leur cerveau était méboulbal. Étant donné que leur tendance ne voulait pas reconnaître leur erreur et pas demander pardon à Dieu, au moment propice où seul 20% a eu l'esprit assez vif et clair pour analyser et voir, des fois, quand, comme on dit souvent, on peut discuter avec tout le monde, mais celui qui est de mauvaise foi, il n'y a plus rien à discuter. Pourquoi? Qu'est-ce que la mauvaise foi? C'est de voir et de nier. Les 80% qui sont restés là-bas, c'est les 80% qui n'avaient pas fait Teshuva à la tour de Babel. Tandis que les autres ont reconnu qu'ils avaient été embobinés, qu'ils regrettaient, qu'ils aimaient Dieu, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, qu'il n'y avait qu'une seule Torah, qu'il n'y avait qu'une seule unique voie à suivre. Alors les 20% sont sortis, et les 80% ne sont pas sortis. Ils sont morts dans la plaie de l'obscurité, parce que dans leur esprit, il y avait encore la tour de Babel comme idéologie. Et cette tendance, malheureusement, va se poursuivre avec Dathan et Abiram. On était mis en Égypte, pourquoi on ne retournerait pas là-bas? Pourquoi on ne reconstruirait pas des maisons? Cette idéologie d'être dans le camp de Dieu ou contre Dieu, comme le dira plus tard Moshe Rabbeinu, avec la faute du Vaudor, « Milachem et l'ail, que celui qui est avec Dieu vienne vers moi. Mais choisis ton camp. Tu ne peux pas être et là et là-bas. Parce que Dieu doit savoir comment il va t'amener à ta vie pour savoir ce que tu voulais, où tu voulais aller. Tu veux être sadique, tu veux être achat. Tu veux être bon, tu veux être mauvais. Ça, c'est toi qui décides. Mais là où tu voudras aller, te dit Hachem, je t'y emmènerai et n'oublie pas que tout se paye. » Pour le meilleur comme pour le pire. Tu fais Torah Mitzvot Maasim Tovim, tu fais Tshuva, tu regrettes, tu avances, c'est le pays d'Israël qui t'attend. Zavat Halavut Vash, c'est la Torah, c'est les Mitzvot qui t'attendent. Tu veux le contraire? Je t'y emmène aussi. Endi Baya, si ta vie c'est de construire des maisons pour lutter contre moi ou faire des actions qui vont m'ignorer toute ta vie, Dieu dit, je peux te faire tous les scénarios du monde entier, j'ai aucun problème. Et n'oublie pas un détail, n'oublie jamais un détail. Quand tu jettes une pierre dans un ravin, n'oublie jamais que cette pierre est liée par ton pied avec une chaîne. Et qu'en jetant la pierre pour me faire du mal dans le ravin, c'est toi qui es emmené dans ce ravin. D'où la fameuse période si difficile des réincarnations de l'époque de la tour de Babel, réincarnée à l'époque de Moshe Rabbeinu Be'ezrat Hashem, où tout comme il y avait Avraham pour Nimrod, il y eut Moshe face à Pharaon. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen. Hashiur hazeh haya be'ezrat Hashem yitbarach v'yitaleh shmo la'ad. Pour l'askara aujourd'hui, donc le Zayin du mois de Shvat de Viviane, Bat Elana, Zichrona Ibracha Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon, et une grande bracha pour Anna, Ayash, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles et que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Lechaim Tovim Ul Shalom, Kol Tov Velitraot.